On va d'abord dire un mot sur la forme avant d'en venir au fond, mais la forme en télé, c'est important. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, c'est vrai, j'étais frappé par la rupture radicale avec tout ce qui se faisait, disons, dans les saisons précédentes, à des heures comparables, sur des chaînes comparables. En gros, vous avez rompu avec les canons de l'émission de fin de soirée. Pas de chroniqueur rigolo obligatoire, pas de public qui applaudit, pas de promo. Est-ce que cette volonté de rupture était importante ?
Ah bah oui, elle était même conditionnelle à mon acceptation quand France Télévisions, enfin plus particulièrement France 3, m'a proposé cette émission en juin dernier. Les missions qu'ils m'ont proposées au départ, telles qu'ils l'avaient imaginées, c'était un peu ce que vous venez de dire, avec des chroniqueurs, etc. Oui, c'était pas
le rigolo de service, les applaudissements.
Non, il y avait pas. Enfin, on n'est pas rentré. C'était pas affiné à ce point, mais c'était l'idée qu'il y aurait des chroniqueurs, qu'il y aurait un débat, qu'on parlerait littérature le mardi et mercredi, on parlerait de cinéma. Voilà, c'était grosso modo, c'était comme ça. Et moi, j'ai dit, ça peut vraiment m'intéresser de faire cette émission quotidienne, en direct, parce que dans le quotidien et dans le direct, il y a justement la possibilité aussi de tenter des choses, de revenir en arrière, d'aller dans une autre direction, de changer l'émission d'un jour à l'autre, etc., etc. Donc oui, effectivement, dans les conditions, il n'y avait pas de chroniqueur, je l'admets, au risque de supporter les foudres.
Il va donner sa réaction dans une seconde. Je voudrais d'abord qu'on voit un autre extrait, puisque dès le premier soir, Perrine, un moment choc dans l'émission.
Oui, c'était le 25 septembre dernier. Vous receviez le réalisateur du film Shoah, Claude Lanzmann, ainsi que Georges Samproun, écrivain et ancien déporté. Les deux étaient là pour débattre du roman Les Bienveillantes, qui vient d'ailleurs de recevoir le Goncourt, 900 pages dans la peau d'un officier SS. Alors, le dialogue entre les deux hommes se prolonge et voilà comment il se termine.
Dans la première article que vous avez écrit, vous dites qu'il y avait deux personnes qui pouvaient comprendre ce livre. Hilberg et vous.
Oui.
C'est une absurdité, permettez-moi de vous le dire. C'est une absurdité complète.
C'est pas vrai du tout.
Ça veut dire que les dizaines de milliers de Français qui l'achètent ne peuvent pas le comprendre.
Ils le comprennent à un autre niveau.
Admettez que je peux le comprendre aussi, ce livre.
Ils le comprennent à un autre niveau. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le comprendre.
Vous n'êtes pas sûr que je puisse le comprendre.
Prenons Jacques.
Je ne peux pas comprendre ce livre. Voilà.
Non, je ne dis pas ça. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le comprendre.
Vous n'êtes pas sûr, donc.
Comme moi. Je ne suis pas sûr de ça.
Peut-être que vous le comprenez peut-être mieux que Little même, lui-même.
En tout cas, nous comprenons tous les deux, Little et moi, croyez-le.
Écoutez, Claude Lanzmann, je ne sais pas où vous étiez en février, mars 1945.
Je faisais la guerre contre les Allemands.
Moi, j'étais déporté.
Je sais, mais écoutez, on va pas se
le dire. Non, mais c'est pas ça. Je suis l'un des premiers témoins du récit d'Auschwitz. Au mois de mars 1945, à Buchenwald, nous avons été convoqués par un communiste allemand pour goûter. Non, je veux dire que cette histoire-là, c'est une histoire qui me poursuit depuis très longtemps.
Mais d'accord.
Je peux comprendre le livre de Littell comme vous comprenez le livre de Littell, ou mieux.
Mieux, ça m'étonnerait. Beaucoup.
Je vous prends le pari que mieux que vous.
Eh ben, je ne vois pas qui va juger.
Continue.
Du piano, là. Hein. Alors, continuez. Alors, attendez, vous avez sur le plateau deux monstres sacrés, quand même, chacun à sa manière, qui sont...
Qui ont parlé quand même très très longtemps avant.
Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête au moment où vous les plantez là et vous dites, allez, continuez sans nous. C'est juste que vous en avez marre, c'est que vous voulez...
Pas du tout, absolument pas. Et comme je viens de vous le dire, mes invités savent que quand le piano démarre, je les ai prévenus avant. Je leur dis, vous savez, quand le piano va démarrer, ça veut dire que ça va s'arrêter. Et que je vais être obligé de vous quitter parce qu'il y a d'autres invités qui m'attendent et que cette émission est en direct, qu'on ne la coupe pas après. Et donc, il me fallait jouer avec ça. Du temps où je faisais Paris Dernière, où je faisais les interviews, où je filmais, où je faisais le montage, tout ça pouvait durer éternellement. Et ensuite, je savais très bien que j'allais couper. Comme vous-même, vous savez, vous, dans cette émission, vous pouvez toujours couper ce qui dépasse. Là, on ne peut pas, donc je les préviens avant. Et là, on entend le piano depuis le début, et je les laisse. Vous remarquez que je n'interviens pas quand j'ai, comme vous le dites, deux monstres sacrés, en tout cas deux personnalités aussi fortes, et dont la vie me semblait si intéressante sur le livre de Little. Vous remarquez que je ne fais pas l'animateur de télé qui va absolument placer son grain de sel. Je les laisse parler. Et à partir du moment où le piano dure, et qu'on me dit dans l'oreillette, tu sais, là, ça fait... parce que c'est à ça que ça sert une oreillette, hein, je le dis pour les gens, ils croient qu'on reçoit des ordres dans l'oreillette, on ne reçoit pas, on vous dit juste, tu sais, tu es en train de dépasser.
Oui, t'as, t'as un conducteur.
5 minutes de dépassement et que l'émission va s'arrêter et qu'il y a des gens qui ne pourront pas parler. Et je me lève et je m'en vais. Mais ça n'a rien de méprisant à leur égard, au contraire.
Non, c'est
que je respecte leur conversation.
Oui, ça pourrait passer pour méprisant, mais effectivement, c'est une image polysémique.
Voilà, je crois pas, personne ne l'a pris et pas eux non plus.
Il y a plusieurs sens. Alors, on va en venir ensuite aux chroniqueurs ou pas de chroniqueurs, etc. Mais d'abord sur la scénographie de l'émission. Comment vous la trouvez ?
Pour venir à cet incident, si vous permettez, j'ai juste un mot à dire. Il n'est absolument pas emblématique du continu de l'émission de Frédéric Taddeï. C'est un moment rare. C'est même le meilleur moment de ce qu'il fait depuis qu'il est fait. Mais c'est pas de sa faute. C'est la faute du système.
Et on va parler du système. C'est un bon moment, ça.
Je trouve ça formidable. Et il est malin comme un singe et il connaît la musique. Il a eu raison de se lever et de partir. De toute façon, il fallait qu'il parte pour des raisons à la réglage objective, qui sont techniques, etc. Mais il a aussi senti le parti qu'il pouvait tirer en se levant et en laissant ces deux vieux merveilleux génies, mais comment dirais-je, qui font partie des ombres et des fantômes du passé, continuer à échanger des choses sans jamais penser qu'ils viendraient l'un et l'autre à bout de leurs discours respectifs. C'est fantomatique, c'est merveilleux. Il y a toute l'histoire, il y a tous les malentendus de l'histoire, il y a tout ce qui sépare les hommes dans ce dialogue entre deux types formidables. Et donc, il s'est éclipsé. Parce qu'il est le présent, parce qu'il est l'avenir, peut-être, parce qu'il est la jeunesse. J'ai trouvé ça superbe.
C'est sublime.
J'attends la suite.
Il y a tout ça dans votre tête au moment où vous partez.
C'est rare. J'ai vu quelques-unes de ses émissions. Encore une fois, il est prisonnier d'un système. C'est un gamin à mes yeux. Et quand je l'entends me dire le jour de sa première émission, je vais révolutionner l'émission culturelle, à la fois j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Et je sais qu'il n'y arrivera jamais. Il ne révolutionnera que les formes. Il aura
c'est déjà pas mal en télé.
Il a un instinct formidable. Alors il aura des idées, il s'éclipsera, il y aura de la musique. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Il y aura des petites choses comme ça et qui feront qu'on dira c'est une émission plus jeune, plus active, plus présente et qui ne sera pas interactive puisqu'il n'y a pas de chroniqueur et puisqu'il n'y a pas de public. Alors si le coup de génie, c'est que je ne sois pas sur cette émission et qu'il n'y ait pas de public, excusez-moi.
En tout cas, je suis sûr que vous allez lui donner des regrets. Peut-être lui en donnez-vous déjà de ne pas vous avoir embauché. Alors, on va quand même continuer à voir un peu
son...
Il y a des problèmes de fond que nous allons maintenant aborder, puisque une des découvertes de votre méticuleuse enquête, Perrine, c'est que la culture dans cette émission ne se limite pas aux formes nobles, aux arts nobles, le cinéma, le théâtre ou la littérature.
Oui, n'hésitez pas à aborder la culture au sens large, y compris ce qui est traditionnellement considéré comme de la sous-culture ou comme pas du tout de la culture d'ailleurs, comme on va le voir dans ce montage.
C'est quoi cette industrie culturelle qui est en train de dépasser l'industrie du cinéma par le chiffre d'affaires ? C'est quoi cette culture sur laquelle les hommes américains, par exemple, dépensent plus d'argent déjà que dans la musique ? Ça s'appelle les jeux vidéo.
C'est vrai qu'au départ, le langage SMS, il a été créé par les jeunes parce qu'un SMS, ça coûtait cher dès que ça devenait deux SMS. Donc il a fallu raccourcir les phrases et utiliser le moins de lettres possible afin de rester dans le texto qui ne coûte qu'un texto en fait et pas deux.
Moi je trouve que Sue Ellen dans Dallas, je sais pas, j'avais 10 ans, je regardais ça avec mes parents comme tout le monde quoi le samedi soir, je crois, et c'est un personnage d'un point de vue romanesque extraordinaire quoi, Sue Ellen. Donc c'est vrai quand je vois cette femme alcoolique amoureuse d'un mec qui la martyrise et que ça dure.
Ce qui me fascine avec le phénomène manga à l'heure actuelle, c'est que pour toute une génération, celle qui effectivement a regardé Ken le survivant, Goldorak quand ils étaient petits, en fait on est en train de changer de mythologie populaire. Et ça c'est très intéressant.
On est passé de Walt Disney à autre chose.
Donc les mangas, les feuilletons télé, les SMS, ça aussi c'est une des conditions que vous aviez posées à la chaîne d'aborder ces secteurs.
J'ai pas eu besoin d'argumenter, c'est une telle évidence que de ne pas voir que les jeux vidéo aujourd'hui influencent davantage. Je l'ai dit, les jeunes générations, mais aussi, ça va jusqu'à ma génération, à moi. En tout cas, que ça influence davantage que les films, par exemple. À mon avis, c'est très très mal connaître les comportements des adolescents. Chez eux, on passe 150 heures devant un jeu vidéo, on passe une heure et demie devant un film.
Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Tesson ?
L'émission de Taddeï, c'est pas seulement ça. L'émission de Taddeï est une émission dans laquelle... Au nom de la confusion qui règne et qui domine, qui gouverne la société aujourd'hui, la société du spectacle, la société télévisée, etc., une confusion terrible qui fait qu'on parle dans une émission comme celle de... Même dans une émission comme celle de Frédéric, qui se veut révolutionnaire, on parle de sujets qui n'ont plus rien à voir avec la culture. Je vous donne deux exemples. Des exemples récents, ils sont de la semaine dernière. Lundi soir, Je savais que j'allais faire cette émission. Donc j'ai regardé attentivement
Merci.
L'émission de Taddeï. Lundi soir, il fait une émission sur une thématique qui est une thématique de société et qui n'est pas, à mes yeux, une thématique culturelle.
C'était quoi ?
Et pourtant, c'est une émission culturelle. Le couple, deux points, unis pour la vie, point d'interrogation. Avec Antoine de Caunes, Charlotte Rampling, Florian Zeller, Robert Renucci, je ne sais qui encore, une ancienne qui s'appelle Camille Laurence, où on parle de choses. Les gens très respectables, qui n'ont aucune légitimité par rapport au principe de l'émission de Taddeï, c'est une émission culturelle. On parle de, c'est Mireille Dumas qui est légitimée pour faire ça. C'est pas Taddeï. Le lendemain, qu'est-ce que me fait Taddeï? Qu'est-ce qui me donne à voir?
Ben, il est en face de vous, hein, vous pouvez lui dire. Hein.
Oui, alors qu'est-ce que vous venez d'avoir? Une potage dans laquelle je trouve sur des sujets d'actualité qui n'ont rien à voir avec la culture, avec à mes yeux, ce qui est une émission de culturelle, c'est-à-dire le tabac, Bush, je ne sais quoi encore, Ségolène Royal. On me donne à voir un dialogue, mais adorable, charmant, distrayant. Entre je ne sais qui, entre Romain Bouteille, Jacques Testard, je ne sais qui encore.
Je l'ai toujours dit, pour moi, la culture est une des clés, l'autre étant l'information, pour comprendre le monde, pour nous comprendre nous-mêmes, ce que nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes, quelle est cette société dans laquelle on vit, quelle est cette époque. Le couple et la prostitution sont des sujets qui sont dans un nombre de livres absolument invraisemblables, de films, même de peintures, et on voudrait dire, ah ben non, ça, il ne faut pas en parler, ce qu'il faut, c'est parler du produit culturel lui-même et ne pas parler de la vie.
Votre conception de la culture est une conception extensive. Vous avez tout à fait le droit. Elle est dans l'air du temps, elle est de toute façon celle des dirigeants de chaîne qui culturellement sont nuls, mais qui doivent obéir à des impératifs, qui respectent d'ailleurs inintelligemment, je dirai tout à l'heure pourquoi si j'en ai le temps. Je dis simplement que pour moi, une émission culturelle, je suis ringard, je suis réac, j'ai 80 ans, c'est ainsi, nostalgie, nostalgie. Pour moi, une émission culturelle est une émission au cœur de laquelle, au centre de laquelle doit être l'œuvre et l'artiste, bien évidemment.
C'est possible
et voilà,
aussi.
Une émission culturelle, un exemple. Alors évidemment, ça paraît tellement anachronique. Une émission culturelle, c'est quand des groupes ou poètes, je ne sais plus qui, interviewent Louis-Ferdinand Céline pendant une heure, dans une pièce où il n'y a pas de décor. Alors évidemment, on est dans le noir et blanc, on n'est pas encore dans la société du spectacle. Bah. Alors là, on pénètre au cœur de Céline. Ouais, et au-delà
ça,
de
c'est
Céline...
C'est sûr que refaire ça aujourd'hui, ce serait de la rupture.
Mais ça, je le fais tout
ça,
le temps.
Ça serait de la rupture. Ça serait jouable. Ça serait jouable. Attends, si vous permettez. Ouais. Ça serait notamment jouable à 11h30 le soir. Parce qu'il y a encore une autre contradiction, une autre confusion. Nous avons affaire à des gens, je parle des patrons, qui vous demandent de faire de l'audience. Et donc, pour faire de l'audience, ils vous demandent de faire des sujets de société. Et ils vous foutent votre émission à 11h30, heure à laquelle il n'y a plus de gens pour regarder les sujets de société. C'est grotesque.
Juste un mot sur l'audience, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse l'émission là-dessus, mais en même temps, on ne peut pas éviter le problème. L'audience, pour l'instant, est faible. Hein,
Alors, écoutez, comme moi, je l'ai suffisamment dit, donc tout le monde, je ne veux pas savoir l'audience et je l'avais demandé. Et franchement, il n'y a que les journalistes qui me parlent de l'audience. Jamais on a eu le mauvais goût à France Télévisions de m'appeler le matin pour me dire, tu sais, t'as fait une mauvaise audience. Jamais. Il n'y a que les journalistes dans les émissions qui aujourd'hui tournent en boucle, se parlent les unes les autres, et où je n'entends jamais deux fois le même chiffre. D'ailleurs, ça m'amuse énormément quand je les écoute.
C'est-à-dire que vous ne le connaissez pas, vous. Votre chiffre d'audience,
non,
vous le connaissez pas.
On me l'a dit parce que je venais chez vous. Alors attendez, on m'a dit, tu peux leur dire s'ils parlent d'audience, parce qu'encore une fois, vous êtes les seuls à m'en parler, tu peux leur dire que tu as gagné 1,5 point pendant cette semaine, après le soir 3, et que c'est vachement bien en une semaine.
Voilà. Cela dit, sans parler de chiffres, est-ce que vous-même vous fixez des objectifs d'audience?
France Télévisions s'en fixe, je l'imagine, et je peux les comprendre. C'est une émission qui doit coûter relativement cher. Si ça leur coûte trop cher, peut-être que c'est un problème. Mais franchement, ils ne m'en parlent pas. Il n'y a que vous qui m'en parlez. Oui, Moi, c'est sûr que j'ai envie que cette émission ne soit pas seulement regardée par les gens qui s'intéressent à la culture, c'est-à-dire les gens qui se disent quel livre je vais acheter cette semaine, quel film je vais aller voir, quelle pièce de théâtre.
Une émission de variété,
J'ai envie que cette émission soit regardée par des gens qui ont envie de comprendre le monde. Et pour en finir avec cet argument, Philippe Tesson, vous connaissez beaucoup de prostituées ?
Écoutez, je vous ai dit mon âge.
Je suis persuadé que une grande partie de la vision que des gens comme Philippe Tesson ont de la prostitution, ils l'ont pris dans les livres et dans les films.
Vous voyez cette tendance.
L'histoire de la promo, dont vous avez dit au début, on ne fera pas de promo comme les autres. Alors, la promo comme les autres, Périne, pour ceux qui ne regarderaient que l'émission de Frédéric Taddeï, c'est quoi la promo à la télé?
En général, les artistes artistes et les intellectuels qui vont sur les plateaux de télé, c'est parce qu'ils ont ce que dans le jargon on dit une actualité, c'est-à-dire voilà, quelque chose à vendre. Et quelle que soit l'émission et quelle que soit la chaîne, la promo de cette actualité, ça donne ça.
Bruno Gassio, c'est à vous de rejoindre le fauteuil de l'interview. Pour ce livre, la success story du président aux éditions Ebec.
Et Eddie pour l'album Jambalaya qui est sorti il y a deux jours. C'est un superbe album enregistré à Los Angeles et à Paris.
Avant d'entendre Patrick Poivre d'Arvor et Olivier Poivre d'Arvor pour disparaître en route pour le Goncourt.
Il sera même à Bercy les 25 et 26 mai prochains, peut-être pour conclure la tournée ou encore il y en aura peut-être beaucoup derrière. Et si vous êtes fan et si vous n'avez pas encore l'album de Patrick Bruel.
C'est publié aux éditions, donc grâce.
La success story du président, c'est chez Obec Éditions. Ouais. C'est pas facile à dire, hein, le nom de l'éditeur. Et d'abord, Superbuste, l'album WOW. Alors, je commence par l'album, après j'expliquerai la tournée en janvier 2007, les concerts, le 25-2 à La Cigale. Bruno Gassio était là ce soir pour nous présenter la success story du président. Vous pouvez rejoindre votre fauteuil.
Voilà, donc ça pour vous, c'est l'horreur. C'est ce que vous vouliez pas faire.
Oui, de toute façon, c'est le côté. Moi, je me sens pas comme ça. Je suis pas un libraire, je suis pas un vendeur de disques. Je suis un animateur de télévision et j'ai pas envie de faire ça comme ça, c'est sûr.
Alors, le pression du direct et refus de la promo se sont peut-être conjugués pour créer dans certaines émissions quelques moments de malaise assez curieux, comme celui-ci, Périne.
Ouais, il y a deux semaines, vous organisiez un débat autour des années 80 avec un historien des idées, François Cusset, pour qui cette décennie a représenté un véritable cauchemar intellectuel. Et en face de lui, vous aviez convié Jacques Attali, personnalité incontournable justement des années 80. Sauf que Jacques Attali était en pleine promo de son dernier livre qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir et qui n'avait donc rien à voir avec le sujet du jour, ce qui est sans doute une des raisons de ce petit couac.
Plus profondément, et c'est ça, vive la crise, et là aussi Jacques Attali a joué son rôle, il y a une rhétorique de la crise comme aubaine, occasion historique pour nous, Français, de se prendre par la main, se serrer la ceinture, devenir entreprenant, innovant, de retourner en gros la malchance économique en chance individuelle, en réussite. Ce discours-là me semble de l'idéologie à l'état pur à l'époque, enfin, et toujours aujourd'hui d'ailleurs.
L'économie, Jacques Attali, ça a de l'avenir.
Je sais pas, moi je comprends rien à tout ce qui se raconte. Hein.
Ah bon ?
C'est des mots pour moi vides de sens. Tout à fait vides de sens.
Le fatalisme économique.
Je m'ennuie profondément.
Ah oui, vous avez l'air, c'est pour ça que je vais me tourner vers vous. Mais, l'économie, ça vous passionne.
Oui, mais enfin, on a dit tellement de bêtises depuis tout à l'heure que je m'en...
Mais justement, rectifiez-les.
Non, mais je sais pas, je me sens extérieur à tout ce débat. Ah Quelle bon. Est votre question?
Bon, ben, je vais passer à une autre question.
Non, là... allez-y, je suis ravi de débattre avec vous. Non,
parce que dans le fatalisme économique, il y a l'idée
pourquoi,
de la fin des...
Pourquoi fatalisme? Qui
non, parle? Je
oui, mais je me sens pas concerné par cette discussion.
Ce qu'on appelle un moment de malaise à la télé.
Hein oui, mais plus pour Jacques Attali.
Pas pour que... vous.
Enfin, si pour moi, parce que il y a toujours. Moi, il n'y a que des moments de déstabilisation. J'ai.
C'est-à-dire que vous êtes sans arrêt déstabilisé.
Oui, moi, je suis en direct. Il peut se passer n'importe quoi. J'ai pas de fiche. J'ai quelques antisèches où je sais les documents que je peux faire que je vais faire passer, des choses comme ça. Donc, j'ai très souvent des moments comme ça. Je bredouille plus que la moyenne des. J'ai pas de prompteur. Donc, quand je fais mes lancements, là, tout que vous me passez depuis le début, je suis filmé en plus très très près, je vais engueuler
le réalisateur demain.
Voilà, c'est des choses comme ça. Évidemment, mais ça c'est ma conception, on va dire, pour faire de la télévision en direct aujourd'hui. Je pense que c'est aussi ça, je pense, le panache aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir rentrer dans le dispositif. Et bon.
J'ai trop d'amitié et d'estime pour lui faire un procès. Puis le mot est tellement terrible, en hypocrisie. Mais enfin quoi, sans le vouloir, il veut peut-être pas faire de promo, mais sans le vouloir, il en fait. Il sait peut-être pas qu'il en fait, mais il en fait. Alors, il ne montre pas les livres.
Si, il les montre aussi. En plus, on les montre. Non, pas lui physiquement, mais ils sont montrés.
Donc, il fait un peu de promo, c'est un peu la même chose. Il ne fait pas la promo comme un marchand forain, type Laurent Ruquier ou Thierry Ardisson. Il fait la promo en sonnant des airs. Voilà, c'est tout. Donc, il ne révolutionne pas la baraque, c'est tout ce que je veux dire.
Bien sûr, alors, bien sûr. Que je ne révolutionne pas en ce sens-là. La promo, je ne veux pas dénoncer mes confrères, mais c'est cette espèce de langage obligé tiré du dossier de presse qui dit le roman choc, le machin, le truc. Jamais vous m'entendrez dire ça. En revanche, si j'ai, et malheureusement, je ne l'ai pas tous les soirs, vous parliez de Louis-Ferdinand Céline tout à l'heure. Vous auriez voulu que si j'avais eu la chance et le pouvoir, j'aurais invité Louis-Ferdinand Céline, j'aurais fait semblant qu'il n'avait pas écrit de livre, j'aurais fait semblant qu'il ne sortait pas le voyage au bout de la nuit.
C'est quel dialecticien,
malheureusement. Vous défendez bien aussi.
Donc, évidemment. Donc évidemment, j'aurais dit, vous avez écrit un livre, on va en parler. Et j'en parle. On parle du contenu.
David Abika.
Non, j'aime bien, moi, la séquence avec Attali, qui est une séquence de vie. Il y a un truc qui explose. Là, il y a un ennui, il y a une mauvaise humeur. Et cet ennui et cette mauvaise humeur, où ce grain de sable dans le conducteur a disparu partout à la télévision.
En tout au montage.
Philippe Tesson, laissez-moi terminer,
terrible,
s'il vous plaît.
Je parle à moi-même.
Ce que je veux dire, c'est que vous ne l'avez plus dans les émissions de jeu, vous ne l'avez plus dans les infos, vous ne l'avez plus dans les interviews. Et je dois dire que voir un auteur de mauvaise humeur parce qu'on ne parle pas de son livre dans une émission dédiée à la culture, c'est presque culturel comme séquence. Donc évidemment, non, mais ça s'est fait sur votre dos. Et on présente ça comme un incident de parcours, mais il y a 20 ans ou 30 ans, et je n'ai pas 80 ans, il restait quelques émissions où finalement on tolérait qu'il y ait de l'air. C'est-à-dire que ça circule, qu'il y a un moment pour l'imprévu.
Et y compris des moments de malaise.
Qu'un chroniqueur dise une connerie, qu'un invité se tire. Pour le coup, c'est pas l'animateur qui se barrait, c'était l'invité qui partait. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et c'est dommage. Et il faut.
La magie du direct recrée ça.
Le plus savoureux, ce serait quand même. Maintenant, c'est presque les émissions ratées qui deviennent savoureuses parce qu'elles sont vivantes.
C'est de la mienne dont vous parlez.
Non, cette séquence, c'est un moment. C'est un moment d'imprévu.
On va terminer cette espèce de passage en revue des fantômes de la télé que vous convoquiez sur votre plateau parce qu'effectivement, ils n'ont plus tellement leur place ailleurs. Alors, on a vu que dans les fantômes, il y a le malaise, une espèce de seconde de malaise comme ça. Et dans les fantômes de la télé, ceux qui font horriblement peur aux animateurs télé, il y a le tunnel. Le tunnel, c'est-à-dire l'invité qui part pour une minute, deux minutes, trois minutes. Et là, l'animateur se dit, il me fait un tunnel, tout le monde va décrocher, c'est l'horreur. Alors, exemple, à travers un invité qui a été commun à votre émission et à d'autres émissions.
Oui, on s'est intéressé à l'acteur Guillaume Canet, que vous avez sans doute beaucoup vu ces dernières semaines, puisqu'il est en promo pour un film qu'il a réalisé. Alors, en fait, on a comparé la façon dont Guillaume Canet était traité dans les émissions et interrogé ou pas sur son film. Alors, on a pris trois exemples dont votre émission. On commence par la méthode Coé sur TF1, où il n'est pas franchement question du film.
Vous, Guillaume, vous dites de vous que vous avez un côté casse-couille qui vous dérange un peu.
Ah, qui me dérange, pas moi, plutôt les autres.
Il est un peu casse-couille.
Non, je ne suis pas casse-couille, je suis simplement exigeant. Mais comme je suis énormément pour moi, c'est bien de l'être pour les autres aussi. Non, mais c'est vrai, quand on fait un film, quand on se barre pour 2 ans et demi sur une aventure comme ça, il faut... et qu'on a envie de s'accrocher à tous les détails, il faut être un peu casse-couille.
Sinon, ah oui, non, mais c'est au travail, c'est pas dans la vie privée.
Alors, Guillaume Canet est aussi allé dans l'émission Jour de fête, émission de cinéma mensuelle d'Isabelle Giordano sur France 2, où l'on parle cinéma, certes, mais un peu paillette.
Visiblement, votre pari est réussi, je l'ai dit tout à l'heure, la presse est unanime, mais il y a également un fan qui aime particulièrement votre film, c'est une surprise que vous réserve Jour de fête. Écoutez.
I think that, you know... Vous savez, je crois que c'est un des plus gros bosseurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans ce métier. C'est vraiment un réalisateur exceptionnel.
Leonardo DiCaprio, bluffé par votre film. Il l'a vu comment d'ailleurs? Comment l'a-t-il vu?
Je lui ai fait une petite projection privée.
Comme à
l'époque de mon idole. Oui, à Paris. Il est venu donc pour la promotion de son film.
Pour le film de Martin Scorsese, Les Infiltrés, qui sort à la fin du mois de novembre.
Et alors, dans votre émission, Frédéric Taddeï, une toute autre approche. Vous invitez également Guillaume Canet, mais pour parler en fait avec d'autres, notamment le cinéaste Yves Boisset et l'éditeur de polar François Guérif. Donc, pour parler de la difficulté de transposer un roman américain en France. Et donc, Guillaume Canet a tout le loisir de parler technique de cinéma. Et juste en détail, comme on parlait de polar, le réalisateur a choisi de mettre l'image en noir et blanc.
C'est vrai que la criminologie n'est pas la même aux États-Unis et en France. Mais après, moi, j'ai passé du temps avec le DRPJ de Versailles, avec le 36, avec des gens pour essayer de trouver des parallèles. Alors c'est vrai que passer du shérif au gendarme, il faut trouver c'est simplement des parallèles et puis essayer de pas tomber non plus.
Et les fédéraux à la crime, ça va encore.
Oui, et puis pas tomber non plus parce que dès que vous mettez une voiture aujourd'hui, tout le monde connaît bien le problème. Dès que vous mettez une voiture de police, on est dans Navarro, quoi. Donc il faut essayer aussi de tourner ça d'une manière. Moi, ce qui me plaisait aussi, c'est là, cet extrait-là le montrait bien, c'est au niveau de la lumière. Moi, j'ai pas voulu rattraper les codes non plus du polar et du thriller, et j'ai voulu avoir une lumière très, très très coloré, quoi.
Il pleut jamais dans les films, vous voulez dire.
Travailler en été avec, avec les peaux un peu brillantes, avec, travailler sur la canicule, comme ça, sur le fait que ce type-là vit une situation complètement contradictoire à ce que vivent les gens à ce moment-là de l'année, parce qu'ils sont en vacances, ils sont détendus.
Alors, non seulement nous avons comparé les propos de ces invités dans les différentes émissions, mais Perrine, nous nous sommes livrés à un comptage inédit pour Arrêt sur Image et extrêmement minutieux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement?
Alors, en fait, on a compté la durée moyenne des interventions de Guillaume Canet dans tous ses passages télé. En fait, c'est-à-dire qu'on a calculé le temps moyen qu'il a pour faire des phrases entre deux interruptions de l'animateur.
Attention, ça
c'est
quoi,
Aurélie Windels qui a fait les comptes. Alors, on commence par la méthode Coué, donc, dont on a vu un extrait. Il a 14 secondes pour parler. Dans les émission de Ruquier, on n'est pas couché, il y a 18 secondes. Dans le jour de fête, dont on a vu un extrait, 21 secondes. Le grand journal sur Canal+, émission de Denisot, 22 secondes. Chez Fogiel sur M6, 27 secondes. Oui, on n'y est pas encore, voilà, ça monte. Et sur En aparté, sur Canal+, où là, il est tout seul, 41 secondes. Mais c'est vous, Frédéric Cadéi, vous explosez tous les records. 1 minute 34. Voilà.
1 minute 34. Bon, alors ça pose quand même le problème de. Alors,
c'est... Non, mais ça c'est... pose un problème.
Oui, parce que je vais vous dire franchement, hein, on est là pour se dire les choses franchement. C'est formidable à la télé aujourd'hui de laisser parler les gens en longueur, de ne pas être l'animateur qui met son grain de sel, comme vous le disiez au début de l'émission. Mais c'est vrai que devant son poste, parfois, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, Tadéhi ? Là, il n'a pas envie de le reprendre sur ce point, il n'a pas une question à lui poser.
Là, vous avez entendu. Deux fois, je suis intervenu pendant qu'il parlait, il en a tenu compte.
Non, mais bon, on le voit sur ce plateau, vous êtes quelqu'un qui aime bien parler, qui a des idées sur beaucoup de choses, qui est cultivé. Et parfois, quand on vous regarde dans l'émission, on se dit, mais il se force à ne pas les interrompre, ou à ne pas les relancer, ou à ne pas les...
Parfois, mais il y a aussi, effectivement, j'espère toujours que... C'est un talk show, cette émission. C'est une émission culturelle, etc. C'est l'air de l'enfer, mais c'est un talk show. Bon, voilà, c'est un talk show. J'espère que cette parole est libre, qu'elle n'est pas conformiste, qu'elle n'est pas bien pensante, comme toutes les paroles que j'entends à la télévision.
C'est très important ce qu'il va dire. C'est très important. Ça s'appelle l'aveu. Et si c'est un talk show, alors là, c'est formidable.
Je crois pas que ce soit un compliment.
C'est un compliment. Si. Et d'ailleurs, je remarque, ça me donne raison à ce que je disais tout à l'heure. Vous comparez les temps de parole entre l'émission de Tadéhi et les autres émissions. Mais vous ne retenez que des émissions, que des talk shows, que des émissions de variété, même. Vous ne retenez que ça. Vous le rangez dans cette catégorie.
On joue un peu sur les mots. David.
Vous pouvez pas lire tous les livres. Comment vous faites pour parler avec deux personnes sur Little, un bouquin qui fait 900 pages, vous êtes au début, vous êtes à la rentrée, est-ce que vous lisez tout? Comment vous faites pour
question de boutique plus précise, le Little, vous l'avez lu en entier avant?
J'ai même lu une fois et demie, mais vous savez, je suis un des seuls quand même à avoir interviewé Little. Et la première émission qu'il a faite, c'était mon émission sur Europe 1 l'après-midi.
Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on ait lu le livre. Enfin,
voilà. Moi, je lis les livres, je lis vite, c'est vrai. Je peux sauter des pages, parfois. C'est pas le cas du Little, mais c'est le cas d'autres. Je vois la plupart du temps le film quand on peut m'envoyer de... Non, je suis en train de réfléchir parce que je voudrais pas vous dire un mensonge et que tout de suite après, parce que vous allez retrouver des trucs et vous allez me le dire. Peut-être que c'est... Mais ça dépend. Il y a des fois où c'est indispensable et d'autres fois pas.
Vous avez beaucoup de refus parce qu'on sait que, par exemple, les personnalités du show business, les personnalités du spectacle, souvent n'acceptent de venir à la télé que dans les occasions où elles sont en promo. Sinon, ça les intéresse pas.
Donc... Ça les rassure d'être en promo parce que d'abord, ils ont le temps à ce moment-là, etc. Là, par exemple, vous avez le cas où puisque je vois l'image, de tas de gens qui sont venus. On ne fait absolument aucune allusion à leurs œuvres et ils vont uniquement parler de l'actualité. On peut faire ça dans cette émission parce qu'elle est quotidienne. On revient sur des sujets d'actualité avec des gens qui vont nous donner un éclairage qu'on espère différent. Et c'est ce que nous a donné Romain Bouteille et je m'en félicite, et pas seulement lui d'ailleurs.
Là non plus, vous ne révolutionnez pas les choses.
Mais non.
J'ai fait avant-hier l'émission de Guillaume Durand sur Little, d'ailleurs, au-delà de Little, sur la fascination du mal, sur la mort, etc. Il y avait autour du plateau des gens dont la présence était quand même très incongrue, mais ils étaient formidables. Ils étaient naturellement, ouvrez les guillemets, dans l'actualité, fermez les guillemets, condition sine qua non.
Ils étaient en promo, tous.
Alors, enfin, ouais, oui, comme chez lui. On en est tous là, c'est le système. Et si on ne revient pas à quelque chose d'exigeant, de spartiate, intellectuellement, j'allais dire, on ne révolutionnera jamais rien.
D'accord. Appel de Philippe Tesson au retour à Sparte. Quand vous le voyez comme ça aussi, quand vous le voyez comme ça aussi éloquent, aussi perfide, aussi brillant sur un plateau, vous ne regrettez pas de ne pas avoir pris quelque chose.
Mais non, c'était justement le but. Je sais qu'il y a des chroniqueurs extrêmement brillants. Et le but, c'était ça. C'était de retirer du temps de parole aux chroniqueurs pour en redonner à ceux qui font les choses et l'enlever à ceux qui les commentent pour en donner à ceux qui les font. Voilà. Moi, j'ai les meilleurs chroniqueurs du monde dans cette émission. Je peux tous les aider. Arlan Coben a été un formidable chroniqueur sur l'émission dont on parlait là. Romain Bouteille est un génial chroniqueur sur l'actualité. Marc Edouard a été un formidable chroniqueur sur Oscar Wilde, qui était le sujet de la pièce de son voisin.
Perrine.
Laurent Deutsch qui venait de lui parler de Zidane. Ce sont les meilleurs chroniqueurs du monde.
Perrine, j'en engage deux. On a un saxophone.
Pardon ? Ah oui, d'accord. C'est pas prévu dans le dispositif.
Ni saxophone, ni piano. Donc merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour la suite, on commencera à vous regarder.
Merci.
Et Arrêt sur Image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous.